Bien, nous allons ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Nous allons relire ces versets que nous sommes en train de considérer depuis quelque temps. Romains, chapitre 8, à partir du verset 31. Romains 8, à partir du verset 31. Et voici la parole de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et jusque-là, la parole de Dieu. On arrive donc à la fin de ce chapitre 8, du moins dans cette série, au bout de, si je ne me trompe pas, 49 messages depuis le début de cette lettre. Mais c'est une lettre qui est tellement riche qu'on va sans doute y revenir une autre fois. Un ancien commentateur dit que l'apôtre Paul, à la fin de ce chapitre, chante l'évangile en des chants. En anglais, c'est death chant. On chante, là on chante à une seule voix, dans une chorale on chante à plusieurs voix avec une harmonie, et parfois on va chanter au-dessus de la mélodie. Et c'est une belle façon de décrire ce que l'apôtre Paul fait ici. Alors on ne sait pas si l'apôtre Paul chantait ces paroles, mais on sait que ces versets, à la fin de ce chapitre 8, ont été mises en musique, dans des cantiques. Et ceux qui l'ont fait ont compris que cet ancien commentateur a tout à fait raison en disant qu'il y a quelque chose ici d'extraordinaire. C'est un peu comme si, pour reprendre une autre image, c'est un peu comme si l'avion des chapitres 1 à 7 qui s'avançait sur la piste a maintenant décollé au chapitre 8. Et que l'évangile a pris son essor. Paul a maintenant une vue panoramique du monde alors qu'il a pris son envol. C'est comme si Paul était en train de regarder par tous les hublots de l'avion et qu'il lance ses questions, comme on a vu la dernière fois, qu'il lance toutes ces questions à l'univers de venir se confronter à l'évangile de Jésus-Christ pour voir s'il y avait quoi que ce soit qui puisse séparer le croyant de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et bien sûr, les réponses que Paul donne, c'est non, il n'y a absolument rien, absolument rien. Il y a quelque chose d'euphorique, on pourrait dire, au sujet de ces versets. Et on pourrait penser que Paul avait déjà atteint le sommet dans le verset précédent, mais Paul, en fait, n'a atteint que le camp de base, pour ainsi dire. Et la raison pour laquelle Paul est si exubérant, si euphorique dans ce passage, c'est qu'il est conscient de là où il va aller, là où il va monter dans les chapitres qui vont suivre, un terrain où personne ne va sans avoir suffisamment d'oxygène. Et donc, si on pense que ces versets nous amènent aussi haut que l'apôtre puisse nous amener, en fait, on va voir qu'à la fin du chapitre 11, il va encore aller plus haut. Mais ça sera après les vacances de l'été. Paul dit, à ces croyants qui sont à Rome, qui ne savent pas ce qui arrive, mais Paul sait ce qui va arriver dans les chapitres suivants. Il dit, mais chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire une pause ici, nous devons chanter, louer Dieu, parce qu'il y a une très grande montée qui nous attend, une montée dans les stratosphères du mystère des desseins de Dieu. Et nous allons voir l'immensité de la gloire de Dieu. Et donc, avant d'aller là, on va s'arrêter, on va se poser. Et Paul, donc, nous rassemble à la fin de ce chapitre pour que nous nous réjouissions dans l'Évangile et que nous partagions avec lui cette conviction qu'il donne au verset 38. J'ai l'assurance, je suis persuadé. Paul ne se regarde pas lui-même. Il ne fait pas un examen de soi, une introspection, comme s'il disait « Maintenant, je suis arrivé à fabriquer des convictions profondes, des opinions fortes à ce sujet. » Il y a une grande différence entre avoir des opinions fortes au sujet de l'Évangile et être persuadé par l'Évangile qu'il n'y a rien dans toute la création qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On a dit la dernière fois que c'est la raison pour laquelle Paul passe beaucoup plus de temps à répondre à cette quatrième question qu'il n'a pris de temps pour répondre aux trois premières. Vous vous rappelez la première question, verset 31, « Qui sera contre nous ?» Il y répond de suite, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il va répondre au verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Question numéro 2, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» La réponse, c'est Dieu qui justifie. La troisième question, verset 34, « Qui les condamnera ?» Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. La quatrième question, verset 35, et il va y répondre tout le reste du chapitre, il va prendre cinq versets pour répondre à cette question. Parce que Paul réalise qu'il est possible d'être clair au sujet de l'Évangile dans notre intellect, dans notre esprit, mais de ne pas être profondément persuadé dans notre cœur. Or, Paul veut que nous soyons persuadés. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons arriver à saisir avec notre propre intelligence. Beaucoup de croyants commettent cette erreur en disant « Aussi longtemps que j'ai une bonne compréhension de l'Évangile, tout ira bien. » Mais on peut avoir une bonne compréhension de l'Évangile sans avoir une assurance du salut. Et Paul veut que nous soyons persuadés dans notre homme intérieur par la puissance de l'Évangile que rien ne peut séparer celui qui est uni à Christ. Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'une des raisons pour laquelle Paul passe tellement de temps sur cette réponse, c'est que c'est sans aucun doute le point focal de l'attaque de l'adversaire de Satan lui-même dans la vie chrétienne. C'est le cas depuis le début de l'histoire, depuis Genèse chapitre 3, avec Adam et Ève. Vous rappelez l'histoire, Adam et Ève ont été tentés par le diable. Et pour paraphraser ce que le diable dit à Adam et Ève, il dit « Mais Dieu ne vous aime pas réellement, parce que Dieu vous a placés dans ce jardin et il vous empêche de manger du fruit de cet arbre. » Alors bien sûr, il focalise l'attention sur cet arbre. Il ne dit pas que Dieu autorise de manger de tous les fruits, de tous les autres arbres, de toutes les autres plantes. Non, il focalise sur cet arbre. Dieu vous a interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il cherche il va réussir à creuser un fossé. Il va semer la discorde, la zizanie, et amener Adam et Ève à être persuadés, ou plutôt à ne plus être persuadés d'être inséparables de l'amour de Dieu. Et étant donné qu'il a eu tant de succès avec nos parents Adam et Ève, il aura encore plus de succès et son succès sera encore plus facile avec le reste de l'humanité. Paul, donc, est arrivé à un point, à une étape importante ici. Et nous devons aussi nous arrêter sur cette question. Il dit, sur ce point, verset 38, « J'ai l'assurance, je suis persuadé. » L'assurance, mais comment est-ce que Paul a cette assurance? On peut dire que c'est la propre prédication de l'apôtre Paul, la prédication de l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle nous prêchons l'Évangile. Ce n'est pas simplement pour remplir notre tête de connaissances, parce que la connaissance seule enfle, comme le dit la parole. Mais c'est prêcher l'Évangile avec l'assurance que l'Esprit-Saint va prendre cette parole qui est prêchée, qui est expliquée, pour nous persuader dans notre cœur, en notre fort intérieur, d'une manière qu'aucun homme, qu'aucune femme ne peut nous persuader. Personne, par exemple, ne peut nous persuader de venir au culte. Certainement, moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas cette capacité. Même mes paroles ne peuvent pas vous persuader que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce qu'on utilise des mots? Parce qu'on est persuadé que c'est par sa parole que Dieu nous persuade. Nous persuade de son amour et du fait que rien ne peut nous séparer de cet amour. Et on commence à comprendre. Personne ici ne sait ce qui passe dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais Dieu le sait. L'Esprit de Dieu le sait. Il sait où nous en sommes. Il sait quelles sont nos craintes, quelles sont nos batailles, quelles sont nos luttes, quelles sont nos faiblesses. Il nous connaît. Et alors qu'on est assis sous le ministère de la parole, sous la prédication de la parole, et ce n'est pas seulement vous, c'est moi aussi. Alors qu'on est assis sous le ministère de cette parole, Dieu va presser par son esprit, il va presser ses vérités dans nos cœurs d'une manière personnelle. Aucun psychothérapeute ne peut le faire. Aucun psychothérapeute ne peut nous persuader comme l'Esprit de Dieu nous persuade. On ne sortira jamais du cabinet d'un psychologue ou d'un psychiatre en disant « Rien dans toute la création ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Parce qu'aucun être mortel n'a la capacité de me donner, de me persuader de cette façon. Dieu seul peut le faire. Et l'apôtre Paul avait toutes les raisons du monde de succomber aux attaques de Satan. Rappelez-vous l'histoire de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse. Et on peut très bien imaginer l'adversaire, Satan lui-même, dire à l'apôtre Paul, « Mais comment est-ce qu'un meurtrier comme toi peut être réellement aimé de Dieu ?» Saul de Tarse, avant sa conversion, a été celui qui chassait les chrétiens, qui les rassemblait pour les mettre à mort. Mais Paul est arrivé, ce même homme, une fois que Dieu l'a transformé, a transformé son cœur, lui a fait faire demi-tour. Paul est arrivé à cette merveilleuse persuasion, cette merveilleuse assurance. Lui qui se décrit comme le premier d'entre les pécheurs, qui avait pour but de détruire l'Église. Et il dit ici, c'est la plus grande, la plus merveilleuse des choses. J'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si Paul peut le dire, alors nous aussi nous pouvons le dire si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'assurance, je suis persuadé qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Paul va faire une liste dans le verset 38. Alors on ne va pas aller dans les détails, mais j'espère que vous voyez que ce que l'apôtre Paul est en train de faire, c'est comme si Paul il allait dans tous les coins, dans toutes les profondeurs du cosmos. Et à chaque fois, il dit, mais non, ceci non plus ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai l'assurance que ni la mort, même pas la mort, cette mort qui brise mon cœur, qui m'arrache ceux qui me sont le plus chers. Et même après des années qu'il soit parti, cette mort me fait ressentir leur absence. Ces personnes qui m'étaient chères me manquent, mais même la mort ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la vie, rien qui se passe dans cette vie. Certaines personnes ont plus peur de la vie que de la mort. Certaines personnes sont inquiètes. Et si ceci arrivait, et si cela arrivait, et si la maladie, et si la perte d'un emploi, et si ceci, elles sont tracassées par toutes sortes de questions. Et Paul dit, mais il n'y a pas de « et si ceci » qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, et il continue, ni les anges, ni les dominations. Il parle d'un côté des anges saints qui sont au service de Dieu. Aucun ange au service de Dieu n'ira vers Dieu en disant « Regarde ce Paul, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a été. » Aucun ange n'ira à Dieu « Attends, je crois que tu as fermé les yeux, là il y a quelque chose que tu as oublié chez Paul de Tarse. Regarde le catalogue de ses péchés. » D'un autre côté, il y a les dominations, les démons de l'enfer qui cherchent à détruire notre confiance en Jésus-Christ, à brouiller notre vision de sa gloire. Et Paul dit, ni les anges, ni les dominations ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni les choses présentes, ni les choses à venir. On peut connaître des jours difficiles dans la vie, on va peut-être connaître des jours plus tard, des jours difficiles. Mais même ces choses, dit Paul, ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni les puissances. Il n'y a aucune dynamique dans l'univers qui possède la force, la puissance de nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ni la hauteur, ni la profondeur. Alors les commentateurs ne savent pas exactement de quoi l'apôtre Paul parle ici. Certains disent ce que Paul dit ici, il n'y a rien en haut, rien en bas et rien entre les deux qui possède la puissance de nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a d'autres qui disent, est-ce que c'est l'équivalent de notre etc. C'est comme si Paul disait, si jamais j'avais oublié quelque chose, que ce soit clair entre nous qu'il n'y a rien dans la création, ni en haut, ni en bas, ni ailleurs, il n'y a rien qui pourra séparer de Dieu, de l'amour de Dieu, ceux qui sont en Christ. La dernière fois, nous avons dit que Paul, au verset 35, pose la question « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et il répond à cette question non pas par « Qui ?» mais avec des « Quoi ?» Il ne parle pas de personne, mais il a parlé de choses, verset 35. Il a parlé de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Mais parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière qui utilise ces choses, c'est quoi? Et Paul pense à ces puissances des ténèbres qui utilisent toutes ces choses, qui savent qu'elles ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, mais qui vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'on ait le sentiment qu'il est peut-être possible d'être séparé de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous savons, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on peut avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, mais dans notre cœur, les émotions se bousculent. Et le diable va jouer avec nos émotions et va chercher à détruire cette confiance que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. La plus grande illustration de cela est sans doute dans le livre de Job. Beaucoup de personnes ont pensé que le livre de Job cherche à résoudre la question du mal, mais le livre lui-même nous dit que ce n'est pas son thème principal. Le livre parle d'un homme juste que Satan va chercher à détruire, à, si on peut utiliser le terme, dépersuader de l'amour de Dieu. Dans le prologue, dans les premiers chapitres du livre de Job, on voit Satan qui vient voir Dieu au sujet de Job et il dit « Cet homme, Job, là, il ne croit pas en toi simplement parce que tu es un Dieu de grâce. Il croit en toi parce qu'il peut en tirer des bénéfices. » Dieu va répondre à Satan « On va voir si c'est effectivement le cas. » Et il donne la liberté à Satan avec une certaine limite, mais il va dire « Dans cette limite-là, éprouve-le. » Et Satan va éprouver Job. Et il y a des moments dans le livre de Job où Job arrive pratiquement à la limite de la folie à cause de son désespoir. Son désespoir est tellement grand et son désespoir, c'est qu'il est poussé jusqu'à croire que Dieu ne l'aime pas. Et c'est le message de ses soi-disant amis, entre crochets, entre guillemets. Ses amis qui viennent le voir et qui lui disent, en résumé, « Tu as péché et donc Dieu est en train de te punir. Reconnais que c'est effectivement le cas. Confesse ton péché. » Et il y a des moments où Job va crier en pleine agonie. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que ce n'est pas une punition de la part de Dieu. » Et il y a d'autres moments dans le livre où Job a presque compris ce qui se passe. Mais ce que Satan cherche à faire, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden et comme il fait quotidiennement, jour après jour, c'est de déloger cet homme de son sentiment que Dieu est un Dieu dont l'amour est inébranlable. Et il aime ses enfants pour toujours. Et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Peut-être rien de plus important dans la vie chrétienne que cela, d'être sûr, d'être rempli d'assurance au sujet de l'amour de Dieu pour moi. Et voyez comment l'apôtre termine ce passage. Il nous dit comment être sûr. Il nous parle, il utilise des termes qui nous rappellent ce qu'il a dit dans d'autres passages. Chapitre 5, verset 11. Paul dit ceci, non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Chapitre 5, verset 21, commençons au verset 20, « La loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » 7, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ici, verset 39, « Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et l'assurance, la raison pour laquelle nous pouvons avoir l'assurance, nous qui sommes unis à Christ par la foi, l'assurance que nous ne serons jamais séparés de l'amour de Dieu le Père, c'est que nous ne serons jamais séparés de l'amour de Jésus-Christ pour nous. S'il est notre Seigneur et Sauveur, s'il est mort pour nous, si nous sommes allés à lui, si nous avons confessé nos fautes, si nous nous dépendons, si nous nous remettons à lui, si nous sommes unis à lui par la foi, si Christ est allé à la croix pour nous, s'il a souffert la mort pour nous racheter de la vaine manière de vivre, alors nous pouvons être sûrs que nous ne serons jamais séparés de son amour pour nous. Ce n'est pas une déclaration générale que nous avons ici dans ce passage. Ce n'est pas une déclaration du genre « Dieu est amour, donc je ne serai jamais séparé de son amour pour moi. » Non, c'est une déclaration de l'Évangile. C'est l'Évangile ici qui ressort. La raison pour laquelle nous savons que nous ne serons jamais séparés de l'amour de Dieu, c'est une raison que nous devons trouver en Christ. Dans l'amour de Christ, nous sommes en sécurité. Nous sommes gardés, personne ne peut nous retirer de sa main. mais la main du Seigneur Jésus-Christ qui garde les brebis en sécurité est elle-même tenue par la main du Père. Il n'y a pas de double incrimination dans l'Évangile. Traduction de double jeopardy. Il n'y a pas de double incrimination. Dieu ne peut pas exiger deux fois le paiement des mêmes péchés. Si Christ a pris mes péchés, qu'il a subi la condamnation à ma place, s'il est vraiment mort à ma place, Dieu ne me demandera jamais de payer ce prix. Il ne demandera jamais le paiement de ce prix une deuxième fois. Si Christ l'a payé, moi je n'ai rien à payer. Il n'y a pas de double incrimination. Par contre, il y a une double sécurité en Christ. Dieu ne me lâchera jamais. Dieu ne lâchera jamais ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas plus qu'il ne lâchera le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si nous sommes en Christ, Dieu ne lâchera pas le Seigneur Jésus-Christ, donc il ne nous lâchera pas. On peut aussi voir cela dans ce que Paul écrit au verset 35, il a posé la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et la réponse au verset 39, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a cette double sécurité. Si nous appartenons à Christ, si nous sommes unis à Christ, non seulement nous sommes aimés par le Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes aussi aimés par le Père qui nous aime en Christ. Nous sommes gardés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jean 10 qui parle de ses brebis. Il gardera ses brebis, tous ceux qui viennent à lui par la foi, tout ce que le Père lui a donné, viendront à lui. Il gardera ceux qui l'est venu chercher, ceux qu'il est venu sauver. Mais non seulement le Seigneur Jésus-Christ les gardera, mais le Père les gardera en Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est en considérant ces choses que nous pouvons avoir la même assurance, la même persuasion que l'apôtre Paul. J'ai l'assurance, je suis persuadé que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est donc à Christ qu'il faut venir. C'est donc à Christ qu'il faut aller. C'est à Christ qu'il faut regarder, parce que c'est en Christ et en Christ seul que Dieu aime son peuple d'un amour éternel. Et c'est en Christ et en Christ seul que nous ne serons jamais séparés de l'amour de Dieu. Que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses, qu'il nous aide à les comprendre et qu'il nous aide à nous réjouir, à avoir avec cette assurance que si nous sommes à Christ, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.